Donc je vais commencer par une introduction générale avant de passer à la séance proprement dite autour de la philosophie politique de Maurice Merleau-Ponty. Donc je déborderai peut-être un peu puisque là je vais à la fois consacrer des choses à la séance, mais aussi disons il faut me présenter de manière générale l'idée des trois cours. Bon. Donc le thème transversal de l'année, vous savez, à l'Université populaire de Lyon, c'est passer les bornes, il n'y a plus de limites, liberté, frontières infinies. Donc c'est là dans ce cadre que je me situe. Au sein de cette entrée, j'ai choisi trois cours qui donc vont traiter principalement d'un domaine particulier qui est celui de la philosophie politique. Donc avec un titre « Éthique et politique de l'émancipation entre limites et ouverture à l'inédit ». Qu'est-ce que je veux dire par philosophie politique? C'est, disons, une discipline des sciences humaines qui propose une série d'interrogations dont la liste n'est pas complètement délimitée au départ, autour de l'organisation de la vie de la cité, c'est ce qui est le plus connu, mais aussi des débats, des controverses, des expériences, des luttes autour de cette organisation de la vie de la cité. Donc ce n'est pas que la question de l'organisation, mais c'est aussi les conflits autour de cette organisation. C'est aussi des valeurs qui sont mobilisées dans ces conflits. C'est aussi les rapports entre l'individuel et le collectif dans le cadre de ces débats et dans l'organisation même de la cité. C'est aussi la façon dont ça peut être inscrit dans un cadre temporel, dans une histoire. Donc c'est cette série d'interrogations auxquelles renvoie la notion de philosophie politique. Alors, la philosophie politique que j'essaye d'explorer, elle s'inscrit dans un territoire politique particulier, tout en essayant de le reconfigurer, c'est-à-dire que ce n'est pas un territoire fixe, puisque en même temps, ce que j'essaye de faire, c'est de redéfinir le territoire à partir duquel je parle. Donc, mon territoire politique, c'est celui du côté gauche de l'échiquier politique, mais une gauche particulière, une gauche qui admet ses fragilités, alors qu'on a beaucoup de gauches qui sont fières de leur certitude. Donc, une gauche qui admet son côté gauche au sens de maladroit. Et qui promeut dans cette perspective l'exploration et le tâtonnement par rapport au problème. Dans ce côté gauche, je m'efforcerai de développer un point de vue à la fois radical et pragmatique. Alors, généralement, c'est deux notions qui sont dissociées, radical et pragmatique. Radical dans le sens où ça met en cause radicalement les logiques de domination à l'œuvre dans les sociétés humaines et notamment dans les sociétés contemporaines, dont la logique du capitalisme n'est pas exclusivement pragmatique, puisque ça promeut plutôt par rapport à ça une logique donc tâtonnante, exploratrice, expérimentale, donc qui ne prétend pas avoir en main toutes les clés de l'avenir, mais qui assume ses fragilités dans un processus continu d'essais, d'erreurs, de rectification, qui ne s'arrête jamais d'une certaine façon. Donc, au proprement parler, expérimental. Donc, un point de vue radical et pragmatique au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la galaxie altermondialiste. Donc, ça signifie que je vais puiser dans des traditions de gauche de manière critique et en fonction de questions du présent, donc de ce début de XXIe siècle. Ce faisant, il y a ce double processus qui est important, c'est il s'agit d'hériter d'une certaine gauche, donc de venir avec un héritage historique, et en même temps de redéfinir ce que c'est que cette gauche. C'est-à-dire, il s'agit d'hériter de quelque chose qu'on redéfinit en héritant, et pas simplement de reproduire quelque chose dont on hérite. C'est ce qui suppose un va-et-vient entre les questions du présent et puis un regard critique sur les ressources issues du passé. Donc hériter de quelque chose que l'on redéfinit dans le mouvement de cet héritage, ça appelle à suivre une double injonction qu'a posée justement le philosophe qui va principalement orienter la séance, Maurice Merleau-Ponty, qui dans la préface à son livre Signes de 1960, peu de temps avant sa mort, il dit « Rester fidèle à ce qu'on fut, tout reprendre par le début, chacune des deux tâches est immense. Rester fidèle à ce qu'on fut, tout reprendre par le début, chacune des deux tâches est immense. » Donc, il y a une double injonction qui ne va pas nécessairement dans le même sens, puisque à la fois il y a l'affirmation d'une fidélité, rester fidèle à ce qu'on fut, et il y a la demande de revenir complètement sur la façon dont on a traité les problèmes jusqu'à présent, pour tout reprendre par le début. En général, ces deux injonctions, rester fidèle à ce qu'on fut, tout reprendre par le début, sont opposées. Ici, ça appelle une tension, une sorte de tension nécessaire entre la fidélité à une histoire, à des valeurs, et un impératif de repenser les choses pour sauver cette histoire et sauver ses valeurs d'elles-mêmes. Ça nous distingue déjà de deux catégories de penseurs, ceux qui sont obsédés par la seule fidélité, ceux qui veulent être fidèles surtout. Et donc ceux qui veulent être fidèles simplement tendent à s'enfermer dans une nostalgie un peu fantasmatique d'une période glorieuse, plutôt que de s'affronter aux défis du présent. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dans ce sens, il y a une certaine succès, disons, médiatique de la nostalgie, et on peut prendre des gens qui vont dans des bords politiques et intellectuels assez différents, mais qui ont le même mouvement. On peut voir chez Alain Finkielkraut une sorte de nostalgie d'une Troisième République mythologique, mais on peut voir chez Alain Badiou une nostalgie d'un maoïsme autoritaire. Ce sont deux modalités de s'encastrer dans le simplement rester fidèle à ce qu'on fut, sans prendre en compte l'autre partie de la proposition, tout reprendre par le début. Et puis il y a ceux qui ne voient que la nécessité de tout reprendre par le début, qui sous-estime donc les ressources issues de l'histoire, la façon dont on hérite d'une certaine histoire, de certaines valeurs. Ceux-là ne cherchent pas, comme les premiers, à tirer les enseignements de cette histoire et surestiment en général ce qui est appelé nouveau, notamment ce qui est appelé nouveau par les médias. Et en étant obsédés par ce qui est nouveau et ce qui est appelé nouveau par les médias, ils sont en train souvent de courir après des modes assez éphémères. Souvent, cette catégorie d'auteurs, on leur donne un nom, on appelle ça les postmodernes. Par contre, tenir les deux ensemble, en tension, la fidélité et la réinvention, c'est un défi intellectuel et politique plus difficile, plus exigeant. Et c'est sans doute pourquoi, vraisemblablement, les deux premiers pôles, le pôle des nostalgiques et le pôle des postmodernes, tendent en général à occuper le devant de la scène intellectuelle ou médiatique, et que ceux qui se réfèrent à la double injonction de Merleau-Ponty sont moins visibles dans cette scène. Alors cette double exigence merleau-pontienne devra s'outiller dans ce mouvement pour réinventer une gauche dont on hérite, d'une autre double exigence qui vient de la tradition de la pensée des Lumières, en tout cas du meilleur de la pensée des Lumières du XVIIIe siècle. C'est un mouvement pour penser par soi-même, donc c'est un élément fort de la pensée des Lumières, penser par soi-même contre les préjugés installés. Mais dans le meilleur de la pensée des Lumières, penser par soi-même, ça inclut une composante du penser contre soi-même. Donc, penser contre ses propres préjugés, penser contre ses propres stéréotypes, ce qui est une dimension souvent, disons, oubliée de la tradition des Lumières. Donc ça implique une interrogation sur certains préjugés, stéréotypes, écueils, impasses de son propre territoire politique, donc celui de cette gauche radicale et pragmatique, altermondialiste, dont il s'agit à la fois d'hériter, mais de reconfigurer l'espace. À partir de ce territoire politique qu'il s'agit de réinventer pour partie dont on hérite, cette gauche radicale, pragmatique, altermondialiste, j'ai formulé l'intitulé du cours général sous la forme « Éthique et politique de l'émancipation entre limites et ouverture à l'inédit ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, émancipation. Le mot émancipation, si on prend le dictionnaire historique de la langue française, celui qui est édité par Laure Aubert, on a quelques éclairages étymologiques intéressants sur la question de l'émancipation, du verbe émanciper. Émanciper, je cite, serait un emprunt vers 1320 au latin classique juridique émancipare, libéré de l'autorité paternelle. Premier sens, libéré de l'autorité paternelle, vers 1320. Emprunt au latin. Ensuite, nous dit le dictionnaire, le verbe conserve le sens juridique du latin, puis se dit par extension pour libérer quelqu'un d'un état de dépendance, à partir de 1580. Donc, à partir de la fin du XVIe siècle, il y a une extension du terme qui signifie libérer d'un état de dépendance. Et puis, il y a un élément aussi intéressant dès qu'on s'intéresse au verbe transitif « s'émanciper ». Il signifie, donc, dans les mêmes eaux, puisque à partir de 1585, s'affranchir d'une suggestion, d'une tâche. S'affranchir d'une suggestion, d'une tâche. Alors, s'affranchir, ça veut dire que la personne qui s'affranchit de cette suggestion participe à cet affranchissement. Donc, dans s'émanciper, il y a la participation de la personne même concernée à cette émancipation. Alors que dans l'autre terme, on peut émanciper quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un d'autre peut émanciper quelqu'un. Si on prend le substantif émancipation, il apparaît autour de 1312, toujours issu du même sens juridique latin. Il est considéré donc, je cite, comme désignant couramment l'action de se dégager d'une autorité, d'une domination, à partir de 1796, donc dans le sillage de la Révolution française. Donc, à partir de 1796, désigne couramment l'action de se dégager d'une autorité, d'une domination. Avec, à partir de 1808, cette expression « émancipation des esclaves ». Puis, poursuit le dictionnaire, le verbe et son participe passé sont appliqués au XIXe siècle, donc on a un peu avancé dans le temps, aux femmes qui cherchent à obtenir une liberté égale à celle de l'homme. Donc, là, l'émancipation renvoie, à partir du XIXe, aussi à la revendication d'une liberté égale des femmes à celle des hommes. Donc si on reprend cet ensemble étymologique, tant le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XVIIIe siècle, on pourrait dire que c'est le siècle de l'émancipation républicaine et démocratique. Le XIXe siècle, c'est le siècle de la naissance de l'émancipation socialiste. Donc, tant au XVIIIe qu'au XIXe siècle apparaissent alors importants dans cette galaxie sémantique l'idée de la sortie de dépendance, de domination, et une sortie qui implique directement l'activité des personnes et des groupes sous dépendance et sous domination, si l'on suit le verbe transitif « s'émanciper ». Dans les deux cas, on observe que l'émancipation apparaît à la fois comme une affaire individuelle et comme une affaire collective. Donc, premier élément, émancipation, s'émanciper. Deuxième élément de ma proposition, une éthique. Alors, l'éthique sera prise ici au sens large d'une interrogation sur le sens et la valeur de l'existence humaine. Et donc, une éthique de l'émancipation, ça serait une interrogation sur le sens et la valeur d'une telle émancipation, comme sur l'essence et les valeurs engagées dans un tel cadre émancipateur. Une éthique de l'émancipation, une politique, si je prendrais politique au sens large, d'un ensemble d'actions individuelles et collectives visant à transformer le monde dans le sens d'une telle émancipation. Donc une politique d'émancipation, c'est sont des actions individuelles et collectives visant à transformer le monde dans le sens de l'émancipation. Dans cette perspective, il faut se débarrasser de la tentation de ce qu'on appelle souvent politique au niveau médiatique, puisque l'action au sein des institutions, ce à quoi souvent on réduit la politique, ou du moins la politique dite sérieuse, ne constitue qu'une des dimensions de cette action, ni à surévaluer, ni à passer sous silence. Mais dans ces actions individuelles et collectives pour transformer le monde dans le sens de l'émancipation, ce qui concerne le rapport aux institutions n'est qu'un élément, qu'un bout, et pas tout le bout, ou pas le bout principal, nécessairement, de ce qu'on appelle la politique d'émancipation. Alors, pourquoi cette éthique et cette politique de l'émancipation est-elle alors associée à l'expression entre limites et ouverture à l'inédit? Donc c'est pour travailler donc d'une certaine façon le thème qu'on a choisi cette année pour l'Université populaire de Lyon, puisque ce thème transversal nous oriente vers une tension entre des limites d'une part et puis une ouverture au-delà des limites pour penser l'émancipation. Le rapport entre ces limites et cette ouverture au-delà de limites. Ouverture au-delà des limites, car s'émanciper, ce serait sortir des limites assignées par la dépendance et la domination, à un moment donné. Donc s'émanciper, ça ce serait sortir d'un cadre prédéfini et aller vers quelque chose d'inconnu, d'inédit. Et donc cet horizon émancipateur, dans cette ouverture à l'inédit, dans cette sortie des limites, il a quelque chose d'une utopie, au sens de l'utopie, ça a à voir avec un ailleurs, quelque chose qui n'existe pas, pour l'instant en tout cas. Un ailleurs par rapport aux limites existantes. Mais, dans le même temps, l'éthique et la politique font signe du côté de certaines limites. De certaines limites, pourquoi? Parce que, au moins sous la forme de repères qui permettent de tracer un espace éthique et politique délimitable. C'est-à-dire que tout ne va pas être appelé émancipation. Donc, viser une éthique de l'émancipation et une politique de l'émancipation, ça suppose de se référer à certains repères qui délimitent l'espace, donc qui posent certaines limites. Par ailleurs, le mouvement individuel et collectif pour s'émanciper rencontre des fragilités individuelles, collectives, comme des contraintes venues de l'histoire dans laquelle s'insère le processus d'émancipation. Et là aussi, ça rencontre des limites. Donc, l'émancipation, ça a à voir avec la sortie des limites, de certaines limites assignées par la dépendance et la domination. Une éthique et une politique de l'émancipation retrouvent aussi le rapport à certaines limites. Donc, sortie des limites, mais aussi un certain rapport à des limites. Mais en même temps, ce rapport à ces limites découvre dans le mouvement d'émancipation individuelle et collective des nouvelles possibilités, des possibilités qui pourraient apparaître impossibles avant, qui permettent de dépasser certaines limites individuelles et collectives. quand on dit par exemple se dépasser soi-même. Donc il y a un dépassement de limite dans le mouvement d'émancipation. Donc il y a bien un va-et-vient et un jeu dans l'éthique et la politique d'émancipation entre certaines limites, que ce soit des limites rencontrées dans le mouvement d'émancipation ou des limites posées par les personnes et les groupes qui veulent s'émanciper, et puis ça a à voir avec la sortie des limites, dans la découverte de quelque chose qui n'existe pas encore, qui déborde, qui dépasse les limites, qui crée de nouvelles possibilités, notamment des possibilités qui seraient apparues impossibles jusqu'à présent. Voilà donc quelques-uns des problèmes qui vont être posés dans le cadre de ces trois séances. Alors, ce cadre sera nourri simplement de la lecture de trois grands penseurs, penseurs qui ne sont pas les plus sollicités aujourd'hui. Donc, un penseur du XIXe siècle, Pierre-Joseph Proudhon, pour la seconde séance. La pensée de Proudhon, la pensée libertaire de Proudhon a longtemps été éclipsée dans la gauche française, en tout cas depuis l'époque de la guerre de après la guerre de 14-18, notamment à cause du succès de la référence à Marx. Et puis deux penseurs du XXe siècle, donc Maurice Merleau-Ponty pour cette première séance. Là ici, la pensée des complications de Merleau-Ponty a beaucoup eu moins de succès, enfin, que deux contemporains de Merleau-Ponty, que sont Sartre et Camus. Donc, mon hypothèse, c'est que c'est les pensées les plus simples, celles qui répondent davantage aux attentes simplifiées, qui ont le plus de succès. C'est pour ça que Sartre et Camus ont plus de succès que Merleau-Ponty, à mon sens, bien que moins intéressant. Et Emmanuel Lévinas, pour la troisième séance, il est surtout connu pour sa philosophie morale et peu pour les dimensions politiques de son œuvre. Donc on travaille rarement sur Lévinas comme un philosophe politique. Donc c'est pour ça que je dis que ces trois grands penseurs qui sont peu sollicités aujourd'hui dans le débat pour reconfigurer ce territoire dont on hérite, c'est-à-dire la gauche. Alors, ce cours sera prolongé par deux séances ensuite, plus expérimentales avec mon ami Daniel Colson, autour de deux séances autour de Foucault, Michel Foucault, un sur le traitement du pouvoir, ou plutôt des pouvoirs par Foucault, et un sur le traitement de la subjectivation, avec deux points de vue assez différents, puisque Daniel Colson développe plutôt un point de vue pleinement anarchiste, disons, et pour ma part, je métisse de façon étrange des références social-démocrates et des références libertaires. Voilà pour la présentation générale du cadre du cours. Donc j'ai indiqué ces deux références bibliographiques qui vont du plus simple au plus compliqué, du plus pédagogique au plus proche de la recherche, qui peuvent vous permettre de prolonger sur les auteurs concernés ou sur d'autres. Donc le petit livre « Les grands penseurs de la politique » de 2005, et puis le livre « La société de verre pour une éthique de la fragilité » de 2002. Alors maintenant, je vais rentrer au cœur de la séance proprement dite, en introduisant Merleau-Ponty, donc, Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961. C'est un philosophe français qui s'inscrit dans un courant important de la philosophie du XXe siècle qu'on appelle la phénoménologie, qui est, disons, créée au XXe siècle, au début du XXe siècle, par le philosophe allemand Husserl. Et beaucoup de philosophes français dans l'après-guerre vont se référer à la phénoménologie, Sartre, Lévinas, Ricoeur, Derrida, etc. Donc c'est un courant, disons, un cadre de référence qui est extrêmement important pour la philosophie française. Et Merleau-Ponty s'inscrit aussi dans le cadre de cette phénoménologie. En même temps, Merleau-Ponty, comme Sartre, aura des activités politiques. Il fondera avec Sartre, en 1945, la revue politique et littéraire Les Temps modernes. Au lendemain de la guerre, donc, il sera dans une certaine proximité avec le marxisme et un certain compagnonnage avec le Parti communiste comme Sartre. Ce dont témoignent deux de ses livres à portée politique, donc Humanisme et Terreur, qui est sous-titré Essai sur le problème communiste, qui date de 1947, et puis un recueil de textes qui s'appelle Sens et non-sens, et qui date de 1948. Mais Merleau-Ponty va rompre avec Sartre. Il y a toute une série de lettres liées à leur rupture qui sont intéressantes, qui ont été publiées. Il rompt avec Sartre en 1953, notamment sur le plan politique. Il considère notamment que Sartre reste trop lié à l'orientation stalinienne du Parti communiste. Et lui-même, à ce moment-là, prend davantage, disons, conscience des crimes du stalinisme. Où la question du stalinisme devient plus importante pour lui. Deux livres vont témoigner de cet éloignement de Merleau-Ponty vis-à-vis du Parti communiste, comme d'ailleurs de la référence au marxisme, tout en demeurant, disons, anticapitaliste et lecteur de Marx, donc il s'éloigne du marxisme tout en demeurant anticapitaliste et lecteur de Marx. Donc il y a son livre « Les aventures de la dialectique » 1955, et puis un recueil de textes aussi « Signes » de 1960. Quelques citations de ces deux derniers livres marquent cette évolution politico-intellectuelle complexe. Je vais donner deux citations simplement. D'abord, dans « Les aventures de la dialectique » 1955, « Les tares du capitalisme restent des tares, mais la critique qui les dénonce doit être dégagée de tout compromis avec un absolu de la négation qui prépare à terme de nouvelles oppressions. » Donc les tares du capitalisme restent des tares, donc on maintient une critique du capitalisme, mais la critique qui les dénonce doit être dégagée de tout compromis avec un absolu de la négation qui prépare à terme de nouvelles oppressions. C'est-à-dire la critique du capitalisme doit être dégagé de la référence à un absolu qui pourrait faire venir d'autres oppressions qui ne sont pas simplement l'oppression capitaliste. Et Merleau-Ponty continue, la critique marxiste doit donc être reprise, réexposée toute, généralisée. La critique marxiste doit être donc reprise, réexposée toute, généralisée. Ça ne ressemble pas du tout aux bêtises qu'on entend sur Merleau-Ponty avec l'idée qu'il aurait totalement rompu avec le marxisme. Puisqu'au contraire, il nous explique que la critique marxiste doit être reprise, réexposée toute, généralisée. Elle doit être reprise, donc reconfigurée. Elle doit être généralisée parce que le capitalisme n'est pas la seule forme d'oppression. Et que ce qui s'est développé en Union soviétique à l'époque, en Chine, etc., est aussi d'une forme d'oppression, contre lequel une critique marxiste reconfigurée doit aussi s'orienter. Et puis, la critique marxiste ne doit pas rester la seule ressource d'analyse. Et c'est la deuxième citation, c'est la préface de Signes, 1960, ça vient de peu de temps après. Je cite Merleau-Ponty, « Nous disons qu'avec les événements des dernières années, le marxisme est décidément entré dans une nouvelle phase de son histoire où il peut inspirer, orienter des analyses, garder une sérieuse valeur heuristique. » Donc, où il peut inspirer, orienter des analyses, garder une sérieuse valeur heuristique, mais où il n'est certainement plus vrai dans le sens où il se croyait vrai. Mais où il n'est certainement plus vrai dans le sens où il se croyait vrai. Et que l'expérience récente, l'installant dans un ordre de la vérité seconde, donne aux marxistes une assiette et presque une méthode nouvelle. Donne aux marxistes une assiette et peut-être et presque une méthode nouvelle. le marxisme ne peut plus occuper l'ensemble de l'espace critique. La naissance de sociétés oppressives, voire totalitaires, qui se réclament du marxisme, l'oblige à se reconfigurer, nécessairement. Donc il n'est pas la seule vérité, ou la vérité première, ou la vérité autour de laquelle tout doit se reconfigurer, mais il devient notamment une vérité plus localisée, plus forte d'une certaine façon, à partir du moment où cette vérité est plus localisée. Notamment, sa critique du capitalisme demeure un élément fort de cette critique, mais toute la pensée critique ne doit pas être organisée autour de la critique du capitalisme. Parce que le capitalisme n'est pas la seule forme d'oppression, et n'est pas le seul problème. Donc, ce à quoi nous oriente, vers quoi nous oriente Merleau-Ponty, c'est non pas une rupture avec le marxisme, mais une rupture avec le marxisme comme axe principal d'organisation de la pensée critique, comme le cadre à laquelle, autour duquel tout doit s'orienter. Mais le marxisme, la critique marxiste, demeure une composante importante de toute pensée critique. C'est très différent donc de ce qu'on entend parfois, donc je l'ai dit, des bêtises sur Merleau-Ponty, qui en donne une lecture assez aseptisée de quelqu'un qui aurait d'une certaine façon admis le capitalisme, l'économie de marché, etc. Je renvoie à mon texte de Mediapart, Actualité de la philosophie politique de Merleau-Ponty, donc du 5 et 7 janvier, et surtout après le 19 janvier, j'ai eu une polémique, disons, avec Vincent Peillon, le dirigeant socialiste, qui est aussi philosophe et qui a fait sa thèse sur Merleau-Ponty, et qui lui fait partie de ceux qui, non pas quand il écrit en philosophe sur Merleau-Ponty, là c'est assez intéressant, mais quand il écrit en politique sur Merleau-Ponty, il est assez schizophrène comme beaucoup de politiques, et il écrit beaucoup de bêtises, et notamment une version assez aseptisée de Merleau-Ponty, comme quelqu'un donc qui nous conduirait à une certaine adaptabilité au capitalisme, ce qui n'est pas le cas. Et donc vous pouvez sur Mediapart lire à la fois le texte de Peillon et puis le mien aussi. Donc on a là une esquisse d'une nouvelle pensée anticapitaliste et antitotalitaire en même temps, non strictement marxiste mais qui inclut une composante marxiste, qui n'a pas pu se développer puisque à cause d'une mort brutale de Merleau-Ponty donc a arrêté d'écrire en 1961. Donc là, on avait esquissé quelque chose d'intéressant qui n'a pas pu, disons, se déployer par la suite. Alors, ce sur quoi je vais insister, c'est moins sur ce cadre directement politique qui est intéressant, mais qui est plus directement politique que sur une dimension méthodologique, c'est-à-dire comment on pense la politique à partir de Merleau-Ponty, comment on pense les rapports entre raison, éthique et histoire à partir de Merleau-Ponty. Première phase, première partie de cette réflexion sur raison, éthique et histoire à partir de Merleau-Ponty, ce que j'ai appelé un rationalisme de la fragilité. Un rationalisme de la fragilité. Donc c'est la question du rapport à la raison. L'héritage des Lumières, dont j'ai parlé tout à l'heure, du XVIIIe siècle, a fait que la raison critique, la notion de raison critique, est devenue un des principes régulateurs à la fois des sciences, de la philosophie et même de la politique. Tant les sciences que la philosophie que la politique sont associées à cette notion de raison critique. Alors, cette raison critique, moins au cours des siècles, du siècle des Lumières lui-même, où les réflexions apparaissaient assez bruissantes, moins arrogantes, mais après, pendant la Troisième République, où on a eu une sorte de codification pesante, voire dogmatique de ce que c'était les Lumières du XVIIIe siècle. Donc souvent ce qu'on appelle les Lumières dans un sens dogmatique, c'est les Lumières telles qu'on les a enseignées, codifiées, dogmatisées sous la Troisième République en France. qui est assez différent de la façon dont les Lumières s'expriment chez Montesquieu, chez Rousseau, chez Diderot, chez Kant, etc. Et dans cette codification pesante de la Troisième République, on a souvent la raison avec un R majuscule qui occupe une place presque exclusive, surplombante, dans l'univers intellectuel. Ce qui n'est pas le cas, disons, dans les Lumières du XVIIIe, c'est quelque chose dans la codification des Lumières propre à la Troisième République. Et Merleau-Ponty va rompre avec cet excès de la vision de la raison avec un grand R au-dessus de l'ensemble, surplombons l'ensemble. Non pas pour faire l'apologie de l'irrationalisme, mais on pourrait dire pour assurer, au sens des alpinistes, les attaches de la raison, comme on s'assure quand on est en train de grimper une montagne pour un alpiniste, on assure sa progression. Et là, si Merleau-Ponty met en cause certains excès de la vision de la Troisième République, c'est pour assurer les attaches de la raison en leur attribuant un pouvoir plus limité dans le cours, disons, de l'existence humaine, dans le cours plus chaotique de l'existence humaine. Et c'est notamment le cas, c'est ce qu'il va faire dans un de ses grands livres de philosophie, non directement politique, mais où la question de la raison est importante, qui est « Phénoménologie de la perception », donc son livre de 1945, un de ses grands livres de philosophie. On a peu de politique, mais la question de la raison est de traiter de manière intéressante. Si on veut un peu synthétiser ce livre de Merleau-Ponty, on pourrait dire que, pour Merleau-Ponty, je serai d'abord au monde avant de réfléchir sur lui de manière consciente. Je suis au monde. Et donc, je suis au monde avant de recourir à ma raison critique. Avant la conscience réfléchissante, il y a d'abord un rapport corporel au monde. Une présence au monde qui est marquée par la présence préalable du monde. Donc je suis dans le monde, je suis jeté dans le monde, je suis pris dans le monde avant de développer une conscience critique sur le monde. Ce qui est premier, donc, c'est cette présence préalable au monde. La conscience réfléchissante, critique, elle vient après, dans un second temps. Dans cette perspective, Merleau-Ponty met en cause la hiérarchie intellectualiste posée dès Platon entre ce qui serait l'intelligible, ce qui serait en haut, et le sensible, ce qui serait en bas, puisque Merleau-Ponty accorde à la raison réfléchissante une validité localisée, mais effective, sur fond d'une expérience première, qui est une expérience de ce qu'il appelle l'irréfléchi. L'irréfléchi qui passe par le corps, ce que Merleau-Ponty appelle le corps propre. Donc je suis d'abord pris dans le monde par mon corps avant de réfléchir sur le monde. Donc il n'y a plus cette idée que ce qui est au sommet c'est l'intelligible et ce qui est en bas c'est le sensible, mais le sensible est premier dans mon existence et vient en second cette conscience critique réfléchissante. Merleau-Ponty écrit ainsi dans la Phénoménologie de la perception, je cite, « La tâche d'une réflexion radicale, c'est-à-dire de celle qui veut se comprendre elle-même, consiste d'une manière paradoxale à retrouver l'expérience irréfléchie du monde pour replacer en elle l'attitude de vérification et les opérations réflexives et pour faire apparaître la réflexion comme une des possibilités de mon être. » La réflexion radicale, ce n'est pas une réflexion à la manière de Platon ou à la manière d'un certain intellectualisme de la raison avec un grand R de la Troisième République qui voudrait faire de l'intelligible le cœur, ce qui est au-dessus, etc. Ce n'est pas ça la réflexion radicale. La réflexion radicale, c'est celle qui va pouvoir penser de manière réflexive les limites même de la réflexion. Qui va pouvoir même resituer la réflexion dans un espace plus large. La tâche d'une réflexion radicale, c'est-à-dire de celle qui veut se comprendre elle-même, consiste d'une manière paradoxale, évidemment paradoxale, parce qu'elle ne va pas mettre au centre la raison, de retrouver l'expérience irréfléchie du monde pour replacer en elle l'attitude de vérification et les opérations réflexives, et pour faire apparaître la réflexion comme une des possibilités de mon être. La réflexion critique, le recours à la raison, est une des possibilités de mon être, pas la première, quelque chose qui vient en second à partir de cette expérience irréfléchie et corporelle au monde. Donc pas de raison critique pour Merleau-Ponty sans retour réflexif sur les limites de la raison intellectuelle. L'intelligence raisonnante constituerait bien une des possibilités de l'être humain, mais une des possibilités seulement, se développant à partir d'un rapport premier au monde, non raisonné, sensible, corporel. Ici, le rationalisme apparaît sauvegardé par Merleau-Ponty, mais sauvegardé parce que délimité contre ses propres prétentions impérialistes qu'on trouve dans la philosophie de la Troisième République. Donc le rationalisme apparaît sauvegardé justement en prenant garde aux excès d'un impérialisme de la raison toute puissante. Se dessine donc un rationalisme de la fragilité. Partons, la raison critique ainsi localisée, qui n'est plus ce qui est au-dessus, mais qui est une des possibilités de l'être humain, se présente comme un des outils à la disposition de l'action collective et notamment de l'action politique. Et donc se dessine alors non pas une politique rationnelle aux mains des philosophes à la manière de Platon, du philosophe roi, ou alors sous la forme plus moderne aux mains des savants, des experts, etc. Donc on n'a pas une politique rationnelle au nom d'une élite intellectuelle, au nom d'une élite scientifique, qui imposerait, disons, leur supposée loi. Mais on a la possibilité d'une action politique raisonnée, accessible à une pluralité humaine historiquement située, à tous les humains. Donc non pas une politique rationnelle aux mains des philosophes, des savants, des experts, mais une politique raisonnée ouverte à l'ensemble des humains, sans être en mesure pour autant de nous débarrasser des contradictions, des ambiguïtés, des incertitudes de l'histoire, où cette action politique raisonnée n'est pas toute puissante. Il y aurait donc des repères raisonnés possibles dans l'action humaine, susceptibles d'un cadrage partiel et relatif pour cette action. Donc il y aurait quelque chose comme des limites raisonnées, posées de manière raisonnée dans l'action politique. Mais cette dimension raisonnée posant des limites raisonnées dans un cadrage raisonné de l'action ne constitue qu'un des aspects possibles de l'action humaine. Qu'un des aspects possibles ouverts sur une histoire, on va le voir, qui est pour une part incertaine, non rationnellement maîtrisée et toujours susceptible de sortir des limites existantes, d'ailleurs dans différentes directions, pour aller vers le pire ou vers le meilleur. Donc ce premier temps de Merleau-Ponty, pour revenir à son traitement de la raison, et qui commence à nous faire envisager un rapport entre cette raison et la politique, une façon de localiser la raison comme une des modalités de notre action et de notre action politique, et pas de faire de la raison une forme, disons, toute puissante qui, disons, surplombe l'action politique. Alors, cette raison localisée, elle a, je l'ai dit, affaire à des ambiguïtés, des incertitudes, ce qui a à voir avec l'histoire et qui pose des problèmes éthiques. Et ça sera mon deuxième point, éthique de l'inquiétude et histoire. Éthique de l'inquiétude et histoire. Alors ici, ce qui est important chez Merleau-Ponty, c'est la lecture de Machiavel, dont je rappelle l'ouvrage le plus classique, Le Prince, a été écrit en 1513 à Florence. Donc la lecture de Machiavel a une certaine importance politique pour la philosophie politique de Merleau-Ponty, non pas le Machiavel de la légende, quand on parle de machiavélisme au sens ordinaire de cynisme ou d'immoralisme, mais au contraire un Machiavel penseur de l'inquiétude éthique en politique, c'est-à-dire un Machiavel penseur de l'éthique. Pourquoi on peut penser que Machiavel est quelqu'un qui est de l'ordre de la réflexion sur l'éthique, ou a apporté à la réflexion sur l'éthique, c'est que Machiavel a découvert que les intentions, et donc les bonnes intentions, n'étaient pas tout dans le cours de l'action, ni même le principal, mais que les intentions des individus et des groupes rencontrer des circonstances indépendantes de la volonté humaine. Ce faisant, ces circonstances indépendantes de la volonté humaine, qui peuvent être des circonstances naturelles, des circonstances historiques, circonstances naturelles, par exemple dans une bataille, s'il se met à pleuvoir, ça crée une certaine contrainte qui ne dépend pas de la volonté humaine sur l'ensemble des personnes qui sont dans la bataille, notamment pour les troupes qui vont s'embourber, et qui n'avait pas prévu de s'embourber. Donc il y a des circonstances naturelles, il y a des circonstances historiques qui ne dépendent pas de la volonté humaine et qui s'imposent d'une certaine façon à la volonté humaine, et les intentions humaines, elles rencontrent ces circonstances indépendantes de la volonté. La volonté humaine, l'habileté humaine, c'est ce que Machiavel appelle la virtu. Les circonstances indépendantes de la volonté, c'est ce que Machiavel appelle la fortuna. Et l'histoire, pour Machiavel, c'est la rencontre de la virtu et de la fortuna. Or, ce faisant, les circonstances ainsi rencontrées dévient les intentions humaines dans des directions qu'elles n'avaient pas visées, jusqu'à parfois provoquer ce que les sociologues aujourd'hui appellent des effets pervers, c'est-à-dire des effets contraires, exactement contraires à ceux qui étaient recherchés. Je me précipite sur une vieille dame qui traverse la route pour la sauver, une voiture qui arrive, elle est cardiaque, elle meurt dans mes bras. J'ai voulu la sauver, je l'ai tuée. Voilà un effet pervers. Mon intention était bonne et ça a produit une catastrophe. Ce que découvre Machiavel, c'est que les bonnes intentions peuvent avoir des effets immoraux, et que des mauvaises intentions peuvent avoir des effets moraux. Je prendrai un exemple historique. En 1979, pour de très mauvaises raisons impérialistes, le Vietnam envahit le Cambodge, et ce faisant, ils font tomber les Khmers rouges qui avaient tué 1 million de la population dans un génocide, un des génocides du XXe siècle. Et donc, par cette mauvaise action, ils ont eu un effet très moral, les Vietnamiens. Donc, des bonnes intentions peuvent avoir des effets immoraux, des mauvaises intentions peuvent avoir des effets moraux. C'est ça que découvre Machiavel et qui crée un trouble dans l'éthique religieuse de son époque, et ce qui a conduit une série de penseurs, disons, de théologiens, de penseurs religieux, à inventer cette idée de machiavélisme ou de cynisme, avec l'idée que Machiavel serait un auteur immoral. Non, il a pensé la difficulté de la morale en politique. À partir du moment où on est face à cette possibilité, les bonnes intentions peuvent produire des effets immoraux et les mauvaises intentions des effets moraux, à cause de ce lien entre les intentions et les circonstances indépendantes de la volonté, ça crée, disons, une plus grande difficulté de l'éthique. Et ça ouvre la légitimité d'écart entre les moyens utilisés et les fins visées. Merleau-Ponty va reprendre cette inspiration machiavélienne, notamment dans un texte de 1949 qui s'appelle « Notes sur Machiavel » et qui est repris dans le volume « Signes ». Merleau-Ponty écrit dans ce sens-là « Machiavel avait raison, il faut avoir des valeurs, mais cela ne suffit pas, il est même dangereux de s'en tenir là. » Machiavel avait raison, il faut avoir des valeurs, mais cela ne suffit pas, il est même dangereux de s'en tenir là. Donc, le problème n'est pas que Machiavel est immoral, le problème c'est que Machiavel découvre que la morale en politique c'est plus compliqué. et qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Chez Merleau-Ponty, cette analyse machiavélienne du déplacement des intentions par des circonstances indépendantes de la volonté rencontre une question plus moderne qui est celle de l'engagement et de la prise de parti. Je cite Merleau-Ponty dans « Humanisme et terreur ». Une dialectique dont le cours n'est pas entièrement prévisible peut transformer les intentions de l'homme en leur contraire, et cependant, il faut prendre parti tout de suite. Une dialectique dont le cours n'est pas entièrement prévisible peut transformer les intentions de l'homme en leur contraire, et cependant, il faut prendre parti tout de suite. Donc, on retrouve cette idée, le cours de l'histoire, que l'intention humaine ne maîtrise pas, que la volonté humaine ne maîtrise pas complètement, peut transformer les intentions de l'homme en leur contraire. Et pourtant, il faut agir. Pourquoi ? Parce que la non-action est une forme d'action. Si je reste au bord du trottoir quand la voiture passe et que cette dame est écrasée, ma non-action aura été une forme d'action aussi. Si des enfants juifs sont arrêtés devant moi en 1942 dans la rue et que j'interviens, et que par cette intervention, je fais que tout le monde est fusillé sur place, j'aurais créé une... Mais si je ne fais rien, et que je les laisse emporter par la Gestapo, ça a aussi une conséquence. C'est-à-dire, je dois agir tout de suite, parce que mon action ou ma non-action a quand même des effets sur la réalité, mais mon intention ne va pas maîtriser le cours de ce qui se passe, ce qui fait que demeure l'incertitude de la conséquence de ce que je vais faire. Donc, une dialectique dont le cours n'est pas entièrement prévisible peut transformer les intentions de l'homme en leur contraire, et cependant, il faut prendre parti tout de suite. Et la non-prise de parti est une façon de prendre parti. Cette analyse prend sens dans une conception de l'histoire qui réévalue la contingence par rapport à la nécessité. Alors la contingence, c'est quoi ? C'est justement le fait que l'histoire peut aller dans différentes directions, que l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Alors que quand on parle de nécessité, ça veut dire que les choses ne peuvent aller que dans une direction, que c'est nécessaire. Donc si je laisse tomber ce stylo, il tombe. Donc il y a une nécessité. Bon. La contingence, c'est la possibilité que ça aille dans plusieurs directions, que les choses ne sont pas écrites à l'avance. Merleau-Ponty va réévaluer la contingence par rapport à la nécessité dans l'analyse de l'histoire. Il y aurait bien des contraintes issues du passé qui pèsent sur l'action présente et sur l'ouverture du futur. Là, Merleau-Ponty se situe dans le sillage de Marx. Il y a bien des contraintes à partir desquelles on agit. Donc, tout n'est pas possible à tout moment. On agit à partir de contraintes qu'on n'a pas choisies, les contraintes notamment nées du passé. Mais le cours de l'histoire n'est pas déterminé à l'avance. D'où ce qui serait la double caractéristique tragique et optimiste de l'histoire, qui à chaque fois, à chaque moment, ouvre la possibilité à la fois de la barbarie et de l'émancipation. Je cite encore Merleau-Ponty à la fin d'Humanisme et terreur. Le monde humain est un système ouvert ou inachevé, donc il n'est pas encore complètement déterminé. Le monde humain est un système ouvert et inachevé, et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance le soustrait aussi à la fatalité du désordre et interdit d'en désespérer. La même contingence fondamentale qui le menace de discordance le soustrait aussi à la fatalité du désordre et interdit d'en désespérer. C'est pour la même raison que l'histoire peut basculer du côté de la barbarie ou de l'émancipation. Ce n'est pas deux dimensions séparées. C'est lié à la contingence de l'histoire. C'est lié justement au fait que l'histoire n'est pas écrite à l'avance, qu'on ne peut pas complètement déterminer à l'avance ce qui va se passer. Et que donc je peux agir dans telle ou telle direction, mais je ne suis pas certain que mes actes aillent plus ou moins dans cette direction finalement au bout du compte, et des effets qui aillent dans cette direction. Donc si on essaye de synthétiser, on pourrait dire que le passé pose des limites à l'action, mais ne ferme pas complètement l'histoire à l'inédit. Il y a comme une dialectique historique du limité et du déplacement des limites. Du limité dans le poids du passé, dans le poids de l'histoire passée, et du déplacement des limites, justement dans l'ouverture à l'inconnu qui déborde les limites connues. Ce hors-limite peut d'ailleurs ouvrir les portes de l'émancipation comme de la barbarie, peut aller dans des sens positifs ou négatifs. Dans ce cadre, l'éthique ne renverrait pas à des principes invariables qui s'imposeraient à l'histoire, mais l'éthique renverrait simplement à des repères, à une boussole pour s'orienter. Donc ce n'est pas des principes qu'on suit de manière invariable, c'est des repères qui nous aident à nous orienter, ce qui est différent, et qui nous permet de nous orienter dans les aléas de l'histoire. C'est-à-dire que la boussole nous indique le nord. Elle ne nous dit pas par où il faut passer exactement. Elle nous donne des indications pour un certain repérage du terrain. Mais elle ne nous dit pas exactement par où il faut passer. Ces repères peuvent mettre des limites à l'action humaine. Parce que ce n'est pas n'importe quel repère. Si mes repères qui mène mon action, c'est l'identité nationale française, c'est une identité raciale. Et si mon repère, c'est l'identité nationale, c'est un métissage de références culturelles différentes, ben, je vais pas aller, c'est pas la même boussole. Donc, les repères que j'utilise, quels que soient ces repères, posent des limites. Pas les mêmes limites en fonction des repères que je choisis, mais pose des limites. Ces repères donc posent des limites à l'action humaine, mais ces limites tendent constamment à être débordées par les mouvements de l'histoire, échappant pour une part au contrôle des volontés humaines. Et tester ces repères éthiques, qui ne sont pas des principes invariables, ne se fait pas dans une forme d'intemporalité du ciel pur, des idées pures. Mais tester ces repères éthiques se fait toujours en situation, dans des situations précises, concrètes, donc au contact des impuretés de la vie. Donc on a une façon de penser l'histoire et l'éthique qui intègre fortement les aléas, les fragilités, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas maîtriser complètement, ce qui nous échappe, et donc les impuretés. Et donc tout ça, comme dans le cadre de la raison n'est pas le principe au-dessus qui boucle l'ensemble. La morale, ce n'est pas quelque chose qui a un principe au-dessus pur et qui boucle l'ensemble. Ce sont des repères engagés dans l'action et qui nous servent de boussole et qui sont toujours confrontés à des situations concrètes. On aurait donc ici affaire à ce que j'appelle une éthique de l'inquiétude en situation. Inquiétude, pourquoi ? Parce que je ne peux jamais complètement être sûr à l'avance des résultats de mon action, des effets. Cette éthique de l'inquiétude en situation va déboucher sur ce que j'appelle la politique comme pari raisonné, et c'est mon troisième et dernier point. La politique comme pari raisonné confrontée à l'incertitude relative. La politique comme pari raisonné confronté à l'incertitude relative. Donc pour Merleau-Ponty, l'historicité de la politique, donc sa mobilité, son ambiguïté, nourrit cette composante d'incertitude, d'aléa. La décision politique ne peut donc jamais s'appuyer sur du définitif et du certain, mais plutôt sur l'évaluation partielle de probabilité. Et à partir de cette évaluation partielle de probabilité, à partir de l'élaboration d'hypothèses à chaque fois situées dans tel ou tel contexte. Donc l'action politique relèverait donc au mieux, parce que souvent elle ne relève pas de ça, au mieux de paris raisonnés. L'action politique est souvent, disons, plutôt rongée par les passions, et donc le plus souvent elle n'obéit pas à cette logique du pari raisonné, mais au mieux, elle ne peut être qu'un pari raisonné. C'est-à-dire que l'action doit pouvoir être guidée par une connaissance du probable pour faire advenir des possibles, ou même ce qui peut apparaître impossible à un moment donné. Dans ce pari raisonné que je ne maîtrise pas complètement, ça ne veut pas dire que tout se vaut de manière relativiste, c'est-à-dire que je ne peux faire n'importe quoi. Dans une démarche raisonnée, et je n'ai pas dit pari rationnel, j'ai dit pari raisonné, dans cette démarche raisonnée, il y a des repères partiels, les repères partiels du probable. Je cite encore Merleau-Ponty dans Humanisme et Terreur. Cela ne veut pas dire que nous puissions faire n'importe quoi. Il y a des degrés de vraisemblance qui ne sont pas rien. Mais cela veut dire que quoi que nous fassions, ce sera dans le risque. Cela ne veut pas dire que nous puissions faire n'importe quoi. Il y a des degrés de vraisemblance qui ne sont pas rien. Par exemple, je peux me caler sur deux hypothèses concernant ce que peut être une sortie du capitalisme. Une hypothèse, disons, marxiste classique, c'est le prolétariat, le salariat qui sera la force principale qui permettra de sortir du capitalisme. C'est une hypothèse qui se discute, mais on peut dire qu'elle est raisonnée, elle a pour elle une série de possibilités, même si historiquement, elle a des éléments qui vont dans un sens différent. Mais par exemple, comme aujourd'hui, disons sur Internet, la mode est au n'importe quoi, je peux faire l'hypothèse que la révolution viendra de Mars. Et que la sortie du capitalisme, en fait, je fais l'hypothèse que c'est les Martiens qui nous l'ont apporté. Bon. Eh bien, je dirais que si j'examine l'hypothèse marxiste classique et si j'examine l'hypothèse martienne, il y a des degrés de vraisemblance qui ne sont pas rien. Bon. Donc, l'analyse de la probabilité ne fait pas dire que je peux dire n'importe quoi. Je pense aux pauvres. Mais souvent, on est engagé dans des évaluations des probabilités assez éloignées des possibilités. Bon. J'ai rencontré beaucoup de gens qui croyaient que José Bové allait arriver lors des précédentes présidentielles, au deuxième tour des présidentielles. Hein. Alors que ça a été, disons, un des candidats qui a fait le plus mauvais score. Bon, c'était un peu. Ça, il y a des degrés de vraisemblance qui ne sont pas rien. Bon. Donc cela veut dire ça ne veut pas dire que nous puissions faire n'importe quoi. Mais cela veut dire que quoi que nous fassions, ce sera dans le risque. Même si on a une hypothèse qui est plus probable qu'une autre, il y a un risque, il y a une incertitude, donc il est possible que le résultat soit assez éloigné de l'hypothèse qu'on vise. Ainsi, les degrés de vraisemblance, on pourrait aussi parler de degrés de probabilité, du type, à partir de telle connaissance partielle est située de la réalité, je fie l'hypothèse qui va se passer telle ou telle chose, que les choses vont s'orienter dans telle ou telle direction. Bon. À partir de ce degré de probabilité, je vais faire des hypothèses qui vont m'orienter dans l'action de manière raisonnée et qui m'éloignent du relativisme, au sens où tout se vaudrait. Non, il y a des degrés de vraisemblance, il y a des degrés de probabilité. L'action politique continue, chez Merleau-Ponty, à s'inscrire dans le travail de la raison critique. Mais une raison, et on revient au premier point de mon exposé, une raison non absolutiste. Une raison adossée au sens de ses propres limites, au sens de ses propres fragilités historiques humaines. Il y a toujours une part de risque et d'aléatoire. C'est pour ça que pour nourrir ce rationalisme de la fragilité en politique, Merleau-Ponty utilise l'expression conjecture méthodique. Conjecture, pas conjoncture, conjecture au sens d'hypothèse, des conjectures méthodiques, qui va opposer au savoir absolu. Au savoir absolu, c'est si on pouvait être certain de ce qui va se passer. Je cite encore Merleau-Ponty dans Humanisme et Terreur. Toujours donc, tant qu'il y aura des hommes, l'avenir sera ouvert, il n'y aura le concernant que des conjectures méthodiques et non un savoir absolu. Toujours donc, tant qu'il y aura des hommes, l'avenir sera ouvert, il n'y aura le concernant que des conjectures méthodiques et non un savoir absolu. Alors, cette approche merleau-pontienne de la politique comme au mieux Paris raisonné en situation d'incertitude relative nous amène à envisager que parfois des petites différences dans la connaissance de la réalité de deux personnes, adossées à des expériences différentes de la vie, des petites inflexions quant aux hypothèses qu'elles vont faire, quant à l'évolution de la situation, donc ces petits déplacements, ces petites inflexions entre deux personnes peuvent les amener, bien qu'elles peuvent avoir des valeurs proches, des orientations politiques très proches, à faire des choix conjoncturels très éloignés, en fonction de ces hypothèses que je fais sur la façon dont les choses vont s'orienter ou pas. On peut être très proche dans les orientations politiques, très proche dans les valeurs, et pourtant, en fonction d'une hypothèse différente sur la façon dont la situation va évoluer, et comme personne n'a les clés de la situation, c'est nécessaire qu'on fasse des hypothèses sur comment ça va évoluer, eh bien, ces personnes très proches peuvent faire des paris politiques très éloignés. Lors des dernières présidentielles, j'ai rencontré des militants de la CNT, anarcho-syndicalistes, qui normalement ne votent pas, mais là qui ont voté François Bayrou au premier tour, dans un schéma assez compliqué, avec l'idée que, comme ça, ça permettrait que ce ne soit pas ces salauds de socialistes qui gagnent, en même temps, on éviterait Sarkozy, et donc, et voilà comment un anarchiste peut faire ce pari raisonné, voter Bayrou au premier tour, plutôt que voter socialiste, communiste, Besancenot, etc. Bon. Ou ne pas voter, ce qui est normalement la logique. Bon. Donc des gens qui peuvent être très proches, en fonction d'une certaine évaluation de la situation, des probabilités de l'évolution, etc., etc., peuvent faire des choix conjoncturels assez opposés. Il faut pouvoir assumer de telles oppositions tranchées entre personnes qui sont proches dans des conjonctures, plutôt que de diaboliser ces divergences politiques. C'est ce que nous dit Merleau-Ponty toujours dans Humanisme et Terreur, puisque nous n'avons quant à l'avenir pas d'autre critérium que la probabilité. Puisque nous n'avons quant à l'avenir pas d'autre critérium que la probabilité, puisqu'il n'y a pas de certitude. La différence du plus ou moins probable suffit pour fonder la décision politique. La différence du plus ou moins probable suffit pour fonder la décision politique. Mais il ajoute, mais non pas pour mettre d'un côté tout l'honneur, de l'autre tout le déshonneur. Mais non pas pour mettre d'un côté tout l'honneur, de l'autre tout le déshonneur. C'est-à-dire, pourquoi avoir besoin de qualifier des proches, de ce qui est assez courant en politique, de salauds, de traîtres, d'irresponsables, etc., etc., ceux qui ont fait des paris différents des nôtres. Pourquoi mettre tout l'honneur dans notre balance et tout le déshonneur dans le leur, alors qu'il s'agit simplement d'une différence du plus ou moins probable qui est inévitable. Inévitable. Et donc, si je considère que ceux qui ont fait des paris différents sont des traîtres, des salauds, des irresponsables, est-ce que je ne fais pas ici référence implicitement, sans vouloir le défendre clairement et publiquement, à une certitude absolue quant à ce que serait l'histoire? Moi, je sais ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de retour, mais implicite, non complètement assumé, à l'idée d'une certitude absolue? Merleau-Ponty demeure rationaliste, je l'ai dit, il sauve le rationalisme, et il sauve le rationalisme contre lui-même, contre les prétentions impérialistes du rationalisme. Merleau-Ponty, rationaliste, est un rationaliste plus modeste. Il se contente que, en tant qu'être socio-historique situé, donc ne pouvant au mieux que raisonner à partir de probabilités quant à ce que va être l'histoire, je cite, c'est dans le risque, dans ce risque et dans cette confusion que nous avons à travailler et à faire paraître malgré tout une vérité. C'est dans ce risque et cette confusion que nous avons à travailler et à faire paraître malgré tout une vérité. Donc ne pas abandonner la possibilité de faire apparaître une vérité, mais toujours, nécessairement, irrémédiablement, dans le risque et la confusion. Malgré tout, dans une confusion indépassable, affectée par un risque inéliminable, sans savoir de manière certaine, au-dessus de la mêlée, ce qu'est la vérité, mais faire paraître une vérité dans cette confusion. Ce qui nous conduit à dédramatiser la possibilité même de divergence politique raisonnée, tout en assumant ses choix de manière ferme. Puisque, je reviens à ce que disait Merleau-Ponty, il faut prendre parti tout de suite. Cette analyse, ce type d'analyse nous amène à substituer aux joyeusetés qu'on trouve beaucoup, disons, dans la vie politique, et aussi encore plus aujourd'hui, qui est une sorte de substitut pour les milieux non politiques, des aspects les plus négatifs de la vie politique, je pense à Internet, pour substituer une sorte aux joyeusetés de la chasse aux traîtres, aux salauds, aux vendus, etc., qui font tant saliver, un débat raisonnablement argumenté pour tester la solidité des hypothèses des uns et des autres, pour faire que notre action soit assise sur des repères plus stabilisés, même si c'est des repères qui ne peuvent pas prétendre à la certitude, et qui peuvent être rectifiés en fonction de la discussion et en fonction de l'expérience, mais sans jamais de garantie définitive. Cette définition de la politique comme au mieux un pari raisonné en situation d'incertitude relative aborde donc d'une certaine manière le rapport entre des limites et hors-limites dans le cadre d'une politique émancipatrice. Ce pari raisonné s'efforce d'évaluer tout à la fois le poids des limites existantes, par l'analyse raisonnée justement, et les possibilités de les déplacer vers une plus grande émancipation individuelle et collective. Mais dans quelque chose dans le mouvement de l'histoire continue à lui échapper, qui peut soit redoubler les limites existantes de manière conservatrice, soit les faire voler en éclats, dans un sens d'ailleurs plus émancipateur ou plus oppressif. Donc il y a à la fois une façon d'évaluer le poids des limites existantes, les possibilités d'émancipation à un moment donné, mais aussi la prise en compte de quelque chose qui, dans le mouvement de l'histoire, résiste à cette analyse raisonnée et qui peut soit reconduire les limites existantes de la société, soit les faire éclater dans des sens assez différents. Ce quelque chose qui échappe peut non pas être maîtrisé rationnellement, parce qu'il ne peut pas être complètement maîtrisé rationnellement, mais on peut s'y confronter en l'assumant, au lieu de le nier, en prétendant, disons, détenir une forme de certitude absolue. On peut, disons, l'assumer de manière raisonnée et raisonnable. Ici, ce que j'appelle une éthique de la fragilité, c'est-à-dire une façon de donner une part à l'aléatoire dans le sens qu'on donne à l'existence, que ce soit à un niveau individuel ou collectif, et une manière d'intégrer la fragilité comme valeur valorisée, une éthique de la fragilité peut constituer une ressource là-dedans. Cette éthique de la fragilité, elle, quelque chose qui aide à assumer ce quelque chose qui échappe. Au lieu de le nier, comme souvent. Au lieu de le nier un plus ou moins implicitement au nom de la possibilité d'une certitude absolue, d'un savoir absolu. Alors, je terminerai ici cette approche dérivée de Merleau-Ponty en indiquant que cette approche appelle de véritables révolutions culturelles dans la conception de la raison, de l'éthique, de l'histoire et de la politique, et surtout dans le rapport entre raison, éthique, histoire et politique. Une série de révolutions culturelles de ce type pourrait nourrir opportunément la redéfinition de ce que c'est que le territoire de la gauche au XXIe siècle, c'est-à-dire ce territoire dont on hérite, mais qu'il faut redéfinir en héritant. L'apport de Merleau-Ponty me semble principalement méthodologique, c'est-à-dire nous orienter vers des questions de méthode, dans la façon de poser les problèmes. Et peut-être que dans la situation de désorientation actuelle des gauches, nous avons peut-être autant, sinon plus, besoin de méthodologie que de contenu de programme, de stratégie électorale, alors là il y en a beaucoup, ou encore de contenu même de projets alternatifs de société. C'est-à-dire, on a peut-être pas mal besoin de méthodologie au sens de méthode pour identifier les problèmes les plus pertinents, pour les reformuler, pour clarifier le cadre intellectuel dans lequel on se situe et dans lequel on inscrit cette question de l'émancipation. En tout cas, il me semble qu'avec leurs outils, que ce soit les philosophes ou les chercheurs en sciences sociales, peuvent livrer sur ce plan toute une série de ressources au débat public et militant, bien loin, tant, si je reviens à ce que j'ai dit au départ, des illusions nostalgiques des Finkielkraut ou des Alain Badiou, que des papillonnages postmodernes, disons, à la recherche de la dernière mode intellectuelle ou politique. Les deux, d'ailleurs, les nostalgiques et les postmodernes, peuvent parfois se rejoindre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le cas. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire, vous avez peut-être écouté à la radio ou vu à la télévision un penseur à la mode aujourd'hui, qui est slovène, Zizek, qui propose un de ceux qui participent, Zizek, à un certain revival mondain de l'idée communiste, comme il est dit. Et ce qui est intéressant, c'est Zizek, c'est qu'il réunit les deux pôles, le pôle nostalgique et le pôle postmoderne, puisqu'il fait de l'idée communiste une mode, mais une mode nostalgique. Et aujourd'hui, dans le monde contemporain, il y a beaucoup de ces choses qui jouent à la fois sur la nostalgie et qui sont à la fois des modes récentes. Bon. Il me semble qu'avec Merleau-Ponty, avec d'autres, il faut davantage prendre au sérieux les problèmes traités, sans nécessairement se prendre au sérieux soi-même, ce qui suppose de prendre en compte les limites, mais aussi les possibilités, donc les fragilités, à la fois de la pensée et de l'action. Voilà un peu comment je voulais, disons, introduire cette première phase du cours avec Merleau-Ponty.